Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Anne-Christine Tinel. Bonjour Anne-Christine.
Bonjour.
Qui va nous parler de son deuxième roman qui s'intitule L'œil postiche de la statue Congo aux éditions Élisade. On en parle avec elle juste après quelques petites infos, comme à l'accoutumée. Je vous rappelle que ce dimanche 17 janvier, à Montgiscard a lieu la 6e édition du Salon du Livre de 10h à 19h. Donc l'entrée est libre. C'est à la salle des fêtes du Faubourg du Serre, Serres, à Montgiscard, comme je vous l'ai dit, avec plus d'une cinquantaine d'auteurs présents, dont d'ailleurs mon invitée, Anne-Christine, vous serez présente à ce salon.
Oui, toute la journée, donc en dédicace, et à 18h pour une rencontre autour de justement l'œil postiche de la statue Congo.
D'accord, vous faites une petite animation donc avec un autre... Non, toute seule ou avec un autre auteur?
Apparemment, toute seule.
Toute seule.
À confirmer.
Ouais. D'accord, à 18h. Donc voilà,
voilà, à 18h.
Donc toute la journée, vous pouvez donc voir l'invité d'aujourd'hui avec son livre. Et puis à 18h, vous pourrez l'écouter parler aussi de ce livre, l'œil postiche de la statue Congo. Et puis je vous rappelle qu'en avant-première donc, de ce salon du livre a lieu la projection du film le vendredi 15, c'est-à-dire demain, à 21h, à la même adresse, à la salle des fêtes de Montgiscard, de Faubourg du Serre. Le film Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, tiré du livre de Denis Beau. Donc voilà, la projection du film demain soir, et puis le salon du livre tout dimanche entier. Ensuite, l'atelier de lecture de poésie samedi 23 janvier à la médiathèque José Cabanis de 10h30 à 12h30 au 3e étage au petit auditorium. C'est un atelier gratuit mais il faut réserver pour une question de place. Donc je vous donne le numéro 05 62 27 45 69. Je vous rappelle que cet atelier mensuel est animé par Blandine Poney et qu'il vous propose de découvrir donc en groupe la poésie contemporaine à trouver à travers un choix de texte, de travailler son dire à haute, le dire à haute voix, à poser sa voix, dresser le texte, etc., etc. Ensuite, vous dire également que la boutique d'écriture du Grand Toulouse organise 3 journées de réflexion sur l'écriture du web. C'est le 28, 29 et 30 janvier prochain, je vous le redirai également en temps utile. Ça se passe à l'usine qui se situe 6 impasse Marcel Paul à Tournefeuille. Ces journées vous proposent donc une réflexion sur les mutations de l'écriture rencontrées à l'ère du numérique. Et oui, c'était intéressant comme sujet. Et avec la présence d'auteurs, bien sûr, de chercheurs, d'artistes et de créateurs. Donc n'hésitez pas, ces 3 journées sont gratuites. Il faut simplement réserver là aussi pour une question de place. Donc je vous donne d'ores et déjà le numéro de téléphone, mais je vous le rappellerai en temps et en heure. C'est le 05 62 13 21 99, si cela vous intéresse. Et puis je terminerai cette page d'info avec l'atelier mensuel d'écriture de soi animé par Hélène Dufaux, qui sera elle aussi présente d'ailleurs au Salon de Montgiscard dimanche, qui devait avoir lieu dimanche dernier, 10 janvier, mais à cause de la neige, a été reporté. Il est reporté donc au dimanche 31 janvier. Donc c'est au même endroit, local à Yamé, 20 rue Figeac, le quartier des Minimes à Toulouse, le métro Barrière de Paris. C'est à la même heure, de 10h jusqu'à 17h. Il faut réserver, c'est un travail en groupe, et il faut réserver pour une question là aussi de place. Donc je vous donne le numéro d'Hélène Dufaux, 06 70 22 02. 99. Et d'ailleurs, je vous dis également, donc elle sera au Salon du Livre ce dimanche. Hélène Dufaux sera également mon invitée jeudi prochain ici à Page sur Radio Occitanie pour présenter donc son dernier roman qui s'appelle Amarana aux éditions TME.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou. Voilà, alors je me tourne maintenant vers mon invitée d'aujourd'hui, Anne-Christine Tinel. Donc vous êtes originaire de Lyon.
Oui.
Hein, cette très belle ville d'ailleurs qui est bien représentée dans votre livre. Hein, on sent que vous connaissez bien la ville et que vous l'aimez. C'est un peu un hommage.
C'est vrai, oui, hein, c'est vrai.
Vous avez rendu hommage à votre ville
d'origine. D'une façon peut-être un peu spéciale, mais c'est une forme d'hommage, oui.
Oui, 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 tout à fait. Et donc, vous êtes actuellement, vous habitez dans le Gers, à Auch, hein, voilà. Vous avez fait des études de lettres modernes et vous êtes professeur de collège actuellement, oui. Donc à Auch. Donc, l'écriture, la lecture, tout ça, ça fait partie des choses que vous faites, voilà, depuis et que vous aimez depuis longtemps.
Oui, c'est ça, oui.
Vous avez toujours aimé lire et écrire.
J'ai commencé à écrire très tôt, mais comme la plupart des gens qui écrivent, en fait, hein, je pense.
Dans les tiroirs.
Voilà.
Voilà, ça reste dans les tiroirs, voilà. Jusqu'au jour où il y a un déclic et on décide. On a envie de publier, de faire partager son...
Pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça, dans la mesure où le déclic a eu lieu avant la publication, à travers l'écriture du théâtre, parce que finalement, la scène, c'est déjà...
Voilà, j'y venais. Vous avez une pratique de l'écriture assez diversifiée, parce que vous avez écrit donc, des livrets d'opéra et des pièces de théâtre.
Oui, hein.
Donc,
je continue d'ailleurs.
C'est assez particulier, et vous continuez d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça se ressent dans ce livre. Je trouve qu'il est très musical. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport entre écrire des livrets d'opéra et le côté musical de votre style.
Alors forcément, c'est très différent. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des passerelles qui se tissent entre les genres. Et j'aime bien tous ces échos. J'aime pas être serrée dans un genre. Et j'aime bien, mais même quand j'écris du théâtre, faire appel aussi à d'autres aspects de l'écriture. J'aime bien tous ces échos, c'est vrai, oui.
Donc c'est voilà, une écriture très diversifiée. Mmh. Et puis, donc, vous avez passé 7 ans en Tunisie, à Tunis, mmh. où vous avez donc enseigné la littérature et l'histoire de l'art à l'université.
Oui, c'est ça, oui.
Et donc là aussi, ça se retrouve un petit peu dans ce livre, et puis bon, peut-être davantage aussi dans votre premier roman, mais voilà, parce qu'il y a un passage aussi qui
se passe à Tunis. La présence de la Tunisie.
Voilà, Tunisie et la ville de Tunis.
C'est peut-être l'occasion de préciser que mon éditeur, qui est une éditrice, est un éditeur. Donc, les éditions Elizade sont des éditions domiciliées en Tunisie, à Tunis.
C'est un joli nom, d'ailleurs. Elizade, ça fait penser un peu à Sherazade.
Je pense que c'est sûrement volontaire. Mais l'éditrice s'appelle aussi Elisabeth d'Aldoul. Hein, donc,
d'accord. Voilà, je pense qu'il y a un mélange un peu de tout ça.
C'est un
condensé. Donc, voilà, c'est une maison d'édition de tunisienne, en
oui,
fait.
Mais distribuée en France, comme n'importe quel éditeur français.
Donc, on peut trouver vos livres dans toutes les librairies. Voilà. Et donc, on en vient à votre biblio, justement, donc L'œil postiche de la statue Congo est votre deuxième roman, donc votre premier roman, édité là aussi aux éditions Elizade, s'appelle toujours d'ailleurs Tunis par hasard. Mm-hmm. Donc justement, là, on retrouve aussi la Tunisie où vous avez vécu pendant 7 ans.
Oui, c'était une commande, en fait, de l'éditrice qui m'avait demandé d'écrire... finalement, une sorte de témoignage, même si c'est un roman. Il y a une part très subjective et très personnelle dans le rendu, en fait, d'une Française vivant
en Tunisie,
avec une écriture qui ne reprend pas les clichés de l'exotisme et l'espèce de complaisance qui est souvent présente dans les écrits sur la Tunisie.
Donc ce livre, on peut encore le trouver, parce qu'il date de 2008.
Ah oui, bien sûr, on le
trouve. Tunis par hasard. Et puis alors, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est L'œil postiche de la statue Congo, qui lui est sorti en 2009. Hein, donc,
juste au dernier trimestre 2009.
Trimestre 2009, aux mêmes éditions, donc les fameuses éditions Elizade en Tunisie. C'est un bien joli nom d'édition. Alors justement, L'œil postiche de la statue Congo, donc c'est un roman, hein, là aussi. Et vous dites d'ailleurs que pour ce roman, vous possédiez déjà la clé du dénouement avant même de commencer à l'écrire.
Oui, c'est-à-dire que il me semblait savoir la façon dont il allait finir. Bon, je savais
vous
pas
aviez
tout
la fait,
à fait.
En fait.
Je savais pas tout à fait, mais finalement, c'était presque ça. Mm-hmm. Mais dans le moment de l'écriture, je pensais que ça allait se passer d'une certaine façon et ça se passait jamais comme je l'imaginais. Donc, j'ai eu l'impression moi-même déjà d'être dans l'expérience du rebondissement et du suspense en venant le matin m'asseoir à ma table d'écriture. Et c'était
vous
assez étrange.
Vous ne saviez pas du tout ce qui allait se passer, finalement.
Ou plutôt, je savais jamais... Oui, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et parfois, je me disais, mais non, c'est pas du tout comme ça, en fait, que ça se passe. Et j'étais surprise de fil en aiguille, je me suis retrouvée surprise par les personnages et par l'histoire. C'est un peu un cliché de dire ça, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé en écrivant ce livre.
Donc, au jour le jour, en écrivant, en fait, vous avez découvert, vous avez éprouvé le suspense du livre aussi, parce qu'il y a beaucoup de suspense dans ce livre.
Complètement, j'ai été amenée à découvrir plus qu'à inventer des tas de choses qui arrivaient au personnage et du coup à me documenter parce qu'il leur arrivait des choses dans certains domaines que j'ignorais complètement, que ce soit sur le domaine, dans le domaine de la médecine, j'y pense, parce qu'il y a un personnage qui a une maladie, je ne vais pas en dire
tout
plus,
fait,
mais j'ai été obligée
oui.
vraiment de documenter.
Mais heureusement parce que voilà que c'était expliqué, parce que bon, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Oui,
c'est
et vrai, cette maladie, j'en ignorais tout avant et de oui, commencer à écrire le livre. C'était, voilà,
il fallait y penser à trouver cette maladie.
Bon, c'est en furetant, j'ai cru qu'il lui arrivait certaines choses et finalement c'était d'autres choses. Et voilà, de fil en aiguille, c'était un peu comme ça, une surprise, enfin des surprises permanentes, un peu tous les jours en écrivant le livre.
Et justement, vous parlez d'invention, donc la notion d'invention, elle est importante pour vous parce que vous pensez, enfin vous sentez davantage l'inventeur de ce roman que son auteur.
Ben, là, c'était au sens de inventeur, au sens de découvrir, comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est-à-dire que moi, je pense que j'aime écrire comme j'aime lire, c'est-à-dire vraiment pour me plonger dans l'imaginaire et ne pas savoir surtout. J'écris pas pour m'exprimer, en fait, pour exprimer des choses qui seraient préétablies à l'avance, mais j'écris parce que j'ai besoin de me plonger dans un monde dont j'ignore tout, même si c'est moi qui le construis et qui l'invente.
Et
j'ai
oui,
besoin
oui,
aussi
oui,
de le découvrir. Et c'est aussi pour ça que dans ce livre-là, l'aspect policier m'a intéressée. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant.
Ah
mais
oui,
c'est vraiment parce que dans l'écriture de l'intrigue policière, ce qui m'a intéressée, c'était justement cette relation que moi j'ai eue à l'écriture et que j'aime avoir en tant que lectrice, un petit peu compulsive à la lecture, qui fait qu'on peut pas lâcher le truc parce que
on a envie de savoir,
parce qu'on a envie de savoir.
Et
donc ça m'a amené aussi à construire une écriture extrêmement rapide, parfois même un peu loufoque aussi, parce qu'elle ne correspond pas forcément à des schémas très très classiques.
Oui oui, tout à fait.
Et donc voilà, pour répondre à votre question sur l'imagination et sur l'invention
voilà. Alors c'est vrai que ce roman n'est pas exactement un roman policier, parce que bon, il n'y a pas du tout de policier d'ailleurs dans le livre, hein, mais c'est plutôt un livre intimiste avec une quête, enfin il y a une enquête et puis il y a aussi une quête. Il y a les deux, il y a l'enquête un peu, on va dire, policière entre guillemets, hein, mais pas vraiment policière, et puis une quête de soi, de ses origines pour la narratrice. Voilà, c'est écrit là, effectivement, c'est l'héroïne, le personnage principal qui écrit un peu sous forme, un peu comme un journal, je trouve.
Oui, donc
lundi, mardi, dimanche, voilà, c'est
un journal,
c'est rigolo,
un peu flou, mais pour donner une sensation intimiste, effectivement, même s'il est quand même rigoureux sur la chronologie, enfin il est juste même s'il n'est pas rigoureux, on va dire.
Oui, tout à fait, oui. Ça se suit, oui. Quand on passe d'une semaine à l'autre, ouais. Alors en prélude à ce roman, vous avez noté une très belle phrase de Paul Celan, que vous aimez certainement, oui. Parce qu'il revient aussi à la fin du roman, d'ailleurs, Paul Celan, hein, dans la bouche d'Antoine, hein, le compagnon d'Anne, l'héroïne. Alors, je vais lire cette phrase de Paul Celan avant qu'on discute un peu de l'histoire et des personnages, justement. Alors, avec une clé changeante, tu ouvres la maison dans laquelle tournoie la neige des choses tues, et au gré du sang qui s'ouvre des yeux ou de la bouche ou de l'oreille, ta clé change. Moi, je trouve qu'elle illustre, enfin, cette phrase, je trouve, une fois qu'on a lu le livre, forcément, je trouve qu'elle illustre parfaitement donc ce roman, quoi.
Mais en fait, ce qu'elle a
c'est
de.
C'est un peu ça, cette clé changeante.
Et puis, c'est aussi l'idée des choses tues, en fait. Hein. C'est,
oui.
C'est-à-dire que c'est un roman sur l'élucidation du silence.
Du silence, de certains
c'est
silences.
C'est un roman qui parle des secrets de famille aussi.
Oui, tout à fait.
Et donc, l'enquêtrice de personnalité, puisque tel est son métier, va se retrouver donc enquêtrice dans sa propre vie, justement de ses secrets, et donc elle va être amenée à trouver des clés qui sont à sa disposition, même si elles sont parfois un petit peu étranges, et donc le titre est en rapport aussi avec une de
oui,
ses
on
clés
va en parler, tout
qui
à fait.
Qui va lui permettre de comprendre les choses tues qui règnent dans sa famille.
Donc justement, l'histoire, alors, c'est une histoire, donc, comme je l'ai dit, qui est rapportée par le personnage principal, hein, c'est la narratrice, hein, en fait. Donc elle s'appelle Anne Cabane, c'est le personnage clé, hein, on va dire, une jeune femme trentenaire. Antoine, c'est son compagnon qui adore jardiner, hein, voilà, le jardin. Et ils vivent tous les deux à Lyon. Alors Anne attend un bébé, hein, elle est enceinte. Donc Lyon, là aussi, on retrouve tout ce que, forcément, voilà, votre hommage, entre guillemets, à votre ville d'origine, avec les traboules, les quais de Saône, la fête des Lumières. On retrouve tout ce côté lyonnais, hein, finalement. Et puis donc, Anne est enceinte et elle a comme métier, donc, un métier de peintre, quoi. Elle est enquêtrice pour le tribunal et doit donc faire le portrait psychologique des accusés. C'est un métier, elle doit faire, oui, comme de la peinture, en fait.
C'est-à-dire, en fait, elle doit faire, un portrait verbal. Hein,
oui, tout à fait, mais ça fait un peu penser à tout ce qui est peinture.
Bah, moi, je me suis amusée, c'est vrai, donc, parce que j'aime beaucoup la peinture aussi,
à la comparer aux
peintres de la Renaissance, hein, qui cherchent une espèce d'exactitude. Bon, c'est toute avec la naissance de la perspective, un souci de la réalité.
Voilà, donc, elle, c'est la personnalité de l'accusé qu'elle cherche à
voilà qu'elle à doit
faire,
décrire
qu'elle doit décrire et donc justement elle va être amenée à rencontrer Lucie Clos qui est donc l'accusé donc à ce moment-là qui est accusé d'avoir poussé donc pousser dans la Saône la compagne de son ex-mari. Alors voilà, déjà, ça prend déjà de l'ampleur. Donc, il y a un ex-mari. Voilà, donc il y a des personnages comme ça qui viennent se greffer. Et donc, là aussi, donc, en parallèle de cette enquête, on va dire, pour définir le côté psychologique de Lucie Clos, il y a l'enquête, enfin, déjà les émois de sa grossesse, hein, parce que bon, on parle beaucoup d'enfants aussi dans ce livre, donc les émois de la grossesse d'Anne. Et puis, il y a la mort de sa grand-mère qui, là aussi, bon, ben, lui fait quelque chose, bien sûr, et puis amène à se rendre compte de secrets, de silences sur les origines. Il y a les rapports aussi avec sa mère, hein, qui sont
alors,
très particuliers.
Juste, je vous interromps. Ce qui m'intéressait par rapport à tout ce que vous dites, c'était de, en mettant en guise narratrice une femme enceinte, pour moi c'était aussi une façon de parler différemment de la féminité parce que souvent donc d'abord il y a peu de femmes enceintes dans les livres,
dans
la littérature,
c'est vrai.
Et en général les femmes enceintes elles sont appelées à être mères et ce sont des mères et elles n'ont plus de féminité, il
n'y
a plus de sensualité, il n'y a plus rien. Et finalement elle va être au croisement, donc que ce soit dans cette enquête pour la justice avec ce trio on va dire classique de la jalousie et qui enfin que je me suis plus à complexifier parce que finalement ça sera pas ce trio, le trio sera pas aussi classique qu'on l'imaginait.
Ah oui, non.
J'avais envie
c'est
justement
pas classique
que
du tout.
Que elle se retrouve donc avec cette réalité d'avoir un bébé dans le ventre et en même temps elle continue toujours à être elle-même avec ses émotions, ses sensations, sa sensualité. Et donc tout cela sont c'est les rencontres qu'elle est amenée à faire avec les personnages de l'enquête.
Oui, comme Martin par exemple,
voilà,
qui lui fait un certain effet.
Oui,
on
c'est
va
ça,
dire.
Elle va se sentir troublée. Et donc elle est une chambre d'écho en quelque sorte. Et c'est cette enquête qui va rentrer en résonance aussi avec son propre passé ou le passé de sa famille, puisqu'effectivement...
Oui, donc, sa grand-mère, voilà.
Sa grand-mère...
Donc tout ça, c'est pas... Tout est parallèle, ça se croise pas forcément, mais tout est parallèle, et puis ils sont tous là, tous les personnages sont bien là, et ils évoluent au gré de la plume de...
Et cette grand-mère, finalement, elle meurt en laissant une brioche au four, et donc cette brioche, finalement, va intriguer la narratrice, qui la ressent comme une sorte de... justement de choses tues, de messages à élucider. Et elle va manger jusqu'au bout la brioche que sa grand-mère a laissée dans le four pour essayer de voir s'il y a pas une fève. Et au bout du roman, elle va trouver qu'effectivement, il y avait bien une fève.
Pas dans la brioche même, mais...
Mais dans la vie de sa grand-mère.
Dans la vie de sa grand-mère, tout à fait. Alors, tout ce roman est servi par un style, moi, que j'ai beaucoup aimé, comme je disais, plein de musique, hein, avec des phrases très courtes, certaines fois, voire même des petits mots par-ci, par-là, et qui, moi, je trouve que... Et puis, même des phrases aussi qui reviennent comme un refrain. Donc c'est très musical, il y a beaucoup aussi de vie hein, aussi dans ce livre et de profondeur parce que c'est écrit comme des pensées qui fusent des fois. Hein,
oui,
elle
vrai
ressent
que...
les choses et hop, elle les dit.
J'ai essayé de traduire ce qu'on peut avoir même parfois dans un demi-sommeil d'endormissement, la façon dont la pensée se construit par des mots, des demi-mots, des choses un petit peu poétiques ou bien
oui,
contre,
il y a de la
très
poésie
prosaïque,
aussi.
Très terre à terre.
Il y a aussi de la poésie dedans.
De l'humour ou de la peine, enfin...
Il y a de l'humour aussi, il y a certaines images qui sont rigolotes. Ouais. Et puis, donc, un bon suspense hein, aussi jusqu'à la fin. Hein, ça, c'est vrai que ça nous tient en haleine. Ouais. Jusqu'à la fin. Alors, le titre, on en vient au titre. Donc, au début, moi, j'ai eu du mal, je trouvais compliqué et difficile à retenir. J'avais du mal à m'en rappeler. Et puis, une fois qu'on a trouvé l'explication, enfin, qu'on a lu l'explication du titre dans le livre, et bien, de suite, je trouve qu'il prend toute sa forme et tout son sens. Et là, j'arrive à le dire sans problème et à m'en rappeler sans problème. Parce qu'il y a effectivement une histoire. Hein, c'est par rapport à l'exposition du Quai Branly sur les objets blessés.
Il y a une statue Congo qui a un œil postiche, oui.
Voilà, c'est un clou en fait qui a été mis à la place de son œil véritable.
Et évidemment, donc le titre, il est un petit peu décalé, il va prendre une valeur métaphorique qu'on comprendra au fil de la lecture. Et c'est vrai que c'est un peu étrange comme titre, l'œil postiche de la statue Congo. Même moi, j'ai un peu du mal à le dire, mais il n'y avait rien à faire. C'était ça le titre. Je ne pouvais pas trouver autre chose puisque.
Oui, non, mais c'est un très bon titre. Alors, ce roman, il est donc plein d'histoires, comme on le disait. J'ai bien aimé aussi celle de l'histoire de la rose bleue, hein, que la grand-mère d'Anne lui racontait.
Oui.
Hein, c'est plein d'histoires, quand elle était petite, donc. Il y a celle aussi du nom de l'héroïne, hein, Anne Cabane. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Mm-hmm. Hein, il y a aussi une histoire autour de son nom de famille. Il y a bien sûr l'histoire de sa grand-mère, hein, qui est une émigrée hongroise.
Dont le nom, Madame Karabotchka, est emprunté à Gogol.
Oui,
qui apparaît d'ailleurs dans un chapitre
oui,
sous la forme d'une scène de théâtre qui met en scène Gogol, la grand-mère, la narratrice, enfin, et puis Pouchkine aussi, donc c'est un peu...
Donc Madame Karabotchka, donc, le mot en lui-même, je crois que ça veut dire petite boîte en russe,
c'est ça.
Russe, hein,
oui,
c'est
oui,
ça.
Oui.
Donc voilà, alors des lieux, bien sûr, on le disait, donc Lyon, bien sûr, mais aussi Marseille et le quartier du Panier que
oui.
Vous connaissez.
Je connais un peu.
Que vous connaissez un peu et que vous avez eu envie de rendre vivant dans ce,
oui,
dans
de
ce
peindre,
livre.
Juste par petites touches. Hein,
oui, oui, oui. Tunis aussi, parce qu'il y a un passage où l'ex-mari de l'accusé vit à Tunis.
Oui.
Donc là aussi, on sent que vous avez aimé,
Tunis, hein,
voilà, que vous avez vécu dans cette ville et que vous lui rendez là aussi un certain hommage.
Oui.
Et puis donc on y parle de livres et de culture, donc avec, comme vous le disiez, donc les âmes mortes de Gogol. Alors d'ailleurs la réflexion de Dan, c'est vraiment un très gros roman. Ça c'est vrai que les âmes mortes de Gogol, c'est vraiment un très gros roman. Il y a aussi Aragon avec les yeux d'Elsa.
Oui.
Et puis il y a aussi Bartok et les chants populaires hongrois.
Mm-hmm.
Et puis aussi de cette tradition lyonnaise qui est la fête des Lumières qui a lieu le 8 décembre.
Mm-hmm.
Moi, j'ignorais totalement que c'était en mémoire de la peste de 1842.
Mm-hmm. Et voilà, c'est ça.
Donc on apprend des choses dans votre livre. Et puis l'histoire aussi, par le biais de la grand-mère, l'histoire de la Hongrie, hein, bien sûr.
Oui.
Et puis on y parle également du couvent des un peu de religion aussi hein. On y parle du couvent des Clarisses.
Oui.
À Paray-le-Monial,
oui.
C'est ça ?
C'est à côté de Lyon, oui.
C'est à côté
très
de Lyon.
Loin.
Voilà, donc on y parle, il y a aussi
une
entrevue
avec une
religieuse.
Toute une quête du sens, hein,
avec des
croisements entre la question des religions, pas seulement
Ah oui, non, c'est pas, je rassure les auditeurs, c'est pas un livre sur la religion, non, pas du tout. C'est qu'il y a une entrevue avec une religieuse pour justement affiner le portrait de Lucie, donc voilà, c'est tout à fait. Bon, c'est un roman donc très plutôt intimiste, hein. On y parle beaucoup d'enfants, mais dans le sens très large, enfants, enfantement. Et tout ce qui va avec, on peut dire.
Oui, la question Ça s'articule avec justement ce positionnement de la femme qui est amenée à être tantôt mère, tantôt fille, tantôt femme. Et la question des enfants s'inscrit aussi dans tous ces questionnements-là sur l'identité, en fait, sur qu'est-ce qu'on transmet.
Il y a les souvenirs d'enfance aussi, les souvenirs d'enfance.
Anne Cabane, elle a ses propres souvenirs d'enfance. En même temps, elle a des choses que sa grand-mère vient de lui transmettre en silence et que sa mère refuse de lui transmettre. Et elle-même, comme elle est enceinte, elle est amenée à se poser des questions sur la transmission. Donc, c'est effectivement...
C'est... Donc, des secrets, bien sûr, aussi. Donc, le silence des origines, hein, avec, qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Et puis, bon, c'est un livre de la vie tout court, hein, où il y a l'amour, il y a la liberté, il y a le choix de chacun. Hein. Finalement, il y a aussi... un peu la folie hein, aussi de d'une certaine personne, l'enfermement aussi parce qu'on parle de prison aussi puisque l'accusé est en prison hein, en attendant son jugement et donc il y a beaucoup d'émotions hein, dans ce roman et puis donc le style de l'écriture et moi je trouve colle parfaitement au contenu. Je trouve que c'est vraiment en harmonie. Enfin, ça colle parfaitement. Et puis donc l'intrigue familiale, donc se juxtapose en fait à l'intrigue policière entre guillemets. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de lien rationnel, mais en même temps, on peut pas dire que ça soit juste juxtaposé. Il y a des liens irrationnels qui sont un petit peu comme dans un tableau, comme quand deux couleurs sont côte à côte, et ben elles créent ensemble une atmosphère. Et c'est vrai que l'ensemble du livre, dans la façon dont j'ai composé les chapitres, c'est un petit peu comme un tableau, c'est-à-dire que on peut avoir une impression de morcellement, et en même temps, c'est tous ces petits morceaux, tous ensemble, petit à petit,
quelque chose,
construisent un sens global, en fait, hein, comme une boule de neige qui se construirait, qui grossirait au fil de la lecture, en attrapant des petits morceaux aimantés, comme ça, qui...
C'est un peu aussi comme un jardin au sentier qui bifurque, selon l'expression de Borges.
Oui, j'ai repris cette expression pour la couverture.
Je trouve que ça s'y prête bien aussi, ça illustre bien aussi ce roman, hein, dont les chemins, là où les chemins donc, et les sens sont forcément, sans forcément se croiser, forment justement une constellation, forment quelque chose. C'est ce que vous disiez en parlant de tableau, enfin de peinture. Mm-hmm. Mais là, avec le jardin et les sentiers qui bifurquent,
c'est la même idée.
C'est un peu ça aussi. Donc voilà, c'est un roman que j'invite les auditeurs et les auditrices à découvrir absolument L'œil postiche de la statue Congo aux éditions Elisade par Anne-Christine Tinel. Je vous rappelle qu'elle pourra aussi vous en parler de vive voix ce dimanche à Montgiscard. Et alors forcément, avant de terminer, je vais vous poser la question. Quels sont vos projets, Anne-Christine? Un autre roman?
Alors en fait, j'ai toujours plusieurs projets à la fois. J'ai un projet théâtre avec une compagnie marseillaise, la compagnie Babou, qui est en train de monter une pièce de théâtre que j'ai écrite et qui s'appelle La valeur de couleuvre. Et la création est prévue pour 2011. Et puis un autre roman qui pour l'instant s'appelle Les bois murés, mais je ne sais pas si ça va rester
Les bois murés. D'accord.
Et donc c'est un roman qui est en cours d'écriture.
Donc,
et qui est très différent donc des deux précédents, mais qui toutefois conserve peut-être de l'idée polar le fait qu'il y a une disparition.
Il y a une disparition énigmatique également.
Donc le héros, cette fois-ci, c'est un personnage masculin, donc au centre. J'avais envie aussi moi-même de me décentrer pour me mettre dans une voie masculine. Donc le héros sera confronté donc au cours du roman à une disparition, mais ça c'est pas encore
peut-être en 2010 cette année, vous pensez?
Je sais pas du tout.
Vous viendrez nous en parler ici à page sur Radio Occitanie, Anne-Christine. Eh bien, merci beaucoup d'être venue nous parler. Donc, l'œil postiche de la statue Congo. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas le salon de Montgiscard ce dimanche et à Dissiats. Boop, boop, be doop.